Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va aborder un sujet. Elle en fait aujourd'hui son cheval de bataille après l'avoir véritablement vécu elle-même. C'est la situation des proches aidants. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Rita Benzakour, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie Lella, Rita.
Alhamdoulilah, je vais bien, merci.
Tout va bien ?
Un plaisir. Ça va, oui.
Alors, installée en Suisse, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Ça fait combien de temps ?
Ça fait 20 ans déjà.
20 ans. Partie pour les études, c'est ça ?
Exactement. Je suis née et j'ai grandi à Casa. Ensuite, je suis venue en Suisse pour faire mes études de pharmacie.
Pharmacie. Et tu pratiques ?
Alors, je pratique, oui, tout à fait. Mais mon parcours professionnel a pris différentes directions. Je suis une éternelle curieuse.
Ok.
Et j'ai travaillé dans différents domaines. Donc, j'ai été d'abord en officine, ensuite en hospitalier, en pharmacie clinique, et ensuite dans les soins à domicile.
Ok.
Et puis, j'ai complètement bifurqué vers l'industrie pharmaceutique où j'y ai travaillé à peu près 10 ans. Et maintenant, j'ai créé ma propre entreprise, en fait, où je suis consultante sur la transformation des systèmes de santé.
D'accord, ok. Et justement, le fait d'être consultante, ça te donne plus de liberté ?
Exactement, oui. En fait, ça a été un choix de pouvoir avoir plus de liberté, de travailler un peu sur des projets qui m'intéressent et qui permettent justement d'allier un peu ces différents domaines dans lesquels j'ai travaillé et que j'ai étudié. Donc, j'ai fait pharmacie, après j'ai fait un MBA, donc management stratégique de l'entreprise, et ensuite un master en droit, droit de la santé et propriété intellectuelle. Et donc, j'avais envie de créer de la valeur un peu différemment et d'accompagner les institutions de santé pour aligner la partie stratégique, le travail sur le terrain des professionnels et l'expérience patient sur laquelle je travaille.
Alors, magnifique. Mais ce qui se cache derrière ce besoin de liberté, ce n'est pas juste avoir du temps pour soi, c'est avoir du temps pour les autres. C'est bien ça ?
Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on s'est connus.
Et c'est comme ça qu'on s'est connus toutes les deux. Alors, raconte-moi en détail. Qui a besoin de toi ?
Alors, donc, on ne va pas dire que c'est un besoin, mais quand je t'ai sollicité, c'était pour amener un petit peu de discussion sur l'espace public marocain, sur la proche aidance.
Oui.
Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, beaucoup de femmes sont proches aidantes. Ça peut être, au début, on est une sœur et ensuite on devient une épouse, on est une maman et ensuite on est la fille de la maman ou du papa dont on s'occupe, etc. Et c'est vrai que forcément, ça a un impact à différents niveaux, au niveau de notre vie. Donc, il y a un impact émotionnel, il y a un impact physique, puis il y a un impact professionnel. Parce que finalement, il faut libérer du temps pour les rendez-vous médicaux, etc. Donc, dans mon cas, c'était dans le cadre de ma famille. Donc, c'est mon époux et puis voilà.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a eu comme souci de santé ?
En fait, c'est une maladie rare. Donc, c'est encore plus complexe parce qu'il y a une partie d'errance
médicale.
D'errance diagnostique au début. Ouais. Voilà, au début. Après, moi, je fais partie du soin. Donc, j'ai été beaucoup chercher, comprendre. J'ai aidé chercher en fait les informations et finalement, c'est comme ça qu'on les a trouvées. Aller chercher le bon professionnel qui va vous accompagner, vous aider, vous guider vers d'autres personnes qui vont vous permettre de répondre à vos propres besoins parce qu'ils sont différents d'une personne à l'autre. Et je voulais en fait rendre hommage, vraiment, rendre hommage à toutes ces femmes, où j'en fais partie en l'occurrence, mais à toutes ces femmes qui au quotidien accompagnent et c'est une aide qui est invisible.
Oui, et il y a beaucoup d'émotions dans ta voix, Rita.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui se passe ?
C'est normal, je suis très très émotive.
Ouais.
C'est pour ça qu'au début tu m'as dit, à la radio, je t'ai dit, je ne suis pas sûre de le faire.
Ouais.
Mais ça va.
Ouais. Là, c'est important d'en parler. Tu sais pourquoi ? Parce que, comme tu dis, dans notre culture marocaine, maghrébine, musulmane, on a beaucoup du don de soi. En fait, le don de soi est normal et il faut donner de soi et c'est normal. Mais ça coûte aussi à la personne de donner de soi et c'est important aussi de mettre des mots sur cette situation, sur ces personnes, sur ces proches aidants ou proches aidantes principalement toutes ces femmes, toutes ces personnes qui s'occupent d'une personne malade, d'une manière ou d'une autre. Alors, par contre, ce que je veux comprendre, c'est toi, en Suisse, est-ce que vous n'avez pas un système d'accompagnement?
Alors, si, c'est bon. Alors, mon gars, il n'est pas très compliqué. Hein. C'était vraiment sur une phase de 6 mois où il y a dû y avoir beaucoup de choses. Puis après, il y a eu des conséquences. Mais c'est pas aussi lourd que les cas, par exemple, que j'ai accompagnés dans les soins à domicile.
Ouais.
Je te donne un exemple. Ça peut être un cas d'oncologie pédiatrique. Donc, un enfant qui a un cancer, une leucémie. La maman, en fait, au bout d'un moment, il faut qu'elle arrête de travailler. Parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, parce qu'il faut l'accompagner à droite et à gauche. Il faut prendre des décisions, il faut pouvoir comprendre pour prendre des décisions aussi. Donc moi, c'est vraiment d'avoir accompagné toutes ces familles dans les soins à domicile qui m'a aussi beaucoup sensibilisée à la cause. Parce que malheureusement, ces proches aidants, ben, en fait, c'est eux-mêmes qui tombent malades plus tard.
Oui.
Et ça, c'est une réalité. Donc il faut pouvoir les préserver, il faut pouvoir les accompagner et répondre à leurs besoins spécifiques. J'ai été un peu regarder si au Maroc, il y a des choses qui sont faites. Alors, il y a une étude qui a été faite en 2022 que j'ai trouvée très chouette, qui a mis 3 lignes stratégiques de soutien nécessaires. Donc, ça a été fait sur la région de Rabat Kenitra Salé, à peu près 250 ménages. Et c'est des personnes en grande dépendance. Et dans les lignes stratégiques, la première, c'est le côté financier. Ben, parce que si on diminue le travail, ben, forcément, il y a moins de revenus. Donc, ça, c'est la première partie.
Absolument.
Après, il y a l'aide à domicile. Ça aussi, c'est important parce que devoir faire les allers-retours au niveau du déplacement, quand il y a un handicap, c'est compliqué. Il faut faire attention à tout. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément avant de se retrouver confronté à cette situation. Et puis aussi, finalement, en fait, on se détache du social. Parce qu'on est tellement dans le quotidien de l'aide que nous-mêmes, avec nos propres amis, on ne les voit plus, on ne prend plus le temps pour nous.
Oui. Et la personne malade, est-ce qu'elle culpabilise de mettre son proche aidant dans cette situation?
Non. Alors, en tout cas, de ce que j'ai pu observer, puis même, je peux parler de mon propre cas, pas du tout, parce que c'est un choix. À partir du moment où on ne le subit pas et que c'est un choix qui est tout à fait éclairé, qu'on est tout à fait OK avec ça... Ben en fait, la relation, elle change. Parce qu'il ne faut pas devenir un soignant. Il ne faut pas devenir une infirmière. Il faut rester la femme, il faut rester la maman, il faut rester l'épouse. Et ça, c'est un point important. Souvent, dans tes podcasts, tu parles de ça, de finalement de réussir à garder sa place de femme, même quand on est proche aidante.
Toi, tu as réussi à la garder, ta place de femme?
Oui, oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai touché le fond. Et je me suis relevée, puis j'ai dit « Ok, maintenant, j'ai besoin d'aide. »
Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail dans ton histoire à toi?
Oui, oui, bien sûr.
Ouais. Donc, justement, diagnostic de ton époux qui tombe, ça impliquait quoi? Quel changement de vie?
Ben, ça impliquait beaucoup de rendez-vous médicaux. Beaucoup de rendez-vous médicaux. Et donc, ben, moi, à l'époque, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Et ben, c'est des horaires avec les États-Unis, avec l'Asie. Et donc, il faut se reconnecter tard, se connecter le matin. C'est très prenant. Et à un moment donné, bah, il fallait que je m'absente, clairement. Parce que quelqu'un qui est malade, bah, il n'a pas forcément... Même moi, je n'ai pas envie de laisser aller tout seul au rendez-vous. Il y a besoin de ce soutien quand il y a des annonces, quand il y a des décisions à prendre, etc. C'est vraiment un travail d'équipe, en fait.
Ouais, ouais.
Donc, c'était ça qui était difficile. Mais ça allait. Au bout d'un moment, en fait, on se met un peu en mode survie. Et quand on nous a dit, bah, c'est tout bon, tout va bien, moi, je me suis effondrée et c'est lui qui m'a sauvée.
Oui, c'est comme un burn-out en fait, on parle beaucoup de burn-out professionnel.
Ça existe, hein. Le burn-out du proche aidant, ça existe.
Du proche aidant, c'est ça.
Ouais.
Et là, lui, il va mieux?
Il va très bien, donc ça c'était il y a déjà une dizaine d'années. Hein.
Alhamdoulilah.
Mais pour avoir accompagné les personnes et avoir vécu ça, en fait j'ai décidé d'en faire quelque chose. Et j'ai créé un service d'accompagnement aux proches aidants. Donc c'est quelque chose que je fais à côté de mon travail, c'est en cours de lancement, c'est de créer cet espace de parole et d'écoute. En fait, c'est de soigner le lien dans la famille. Parce que malheureusement, quand il y a des problèmes comme ça de maladie, en fait, tout le monde est impacté. Il y a la fratrie qui est impactée, il y a le lien dans le couple, il y a le lien dans la famille élargie. Et donc, il faut pouvoir avoir un espace pour discuter de ces choses-là. Et faire le choix de continuer à avancer et avoir des vraies stratégies familiales, de se dire, ok, voilà la situation, et voilà ce qu'on va faire, et voilà où est-ce qu'on va aller.
Mais pardon, Rita, est-ce que c'est possible d'en parler, par exemple, dans ton cas, toi, avec ton époux, est-ce que c'était possible d'avoir ce genre de conversation avec lui, alors que lui-même, lui-même était dans son errance médicale, lui-même était fatigué, lui-même... Est-ce que... Voilà.
Alors moi, j'ai un mari exceptionnel.
Alhamdoulilah.
Vraiment. Il est exceptionnel parce que il a ce que j'appelle le hikma, c'est-à-dire que il arrive à un moment donné se dire voilà la situation, voilà où est-ce qu'on va faire et où est-ce qu'on va aller. Donc ça dépend aussi du mindset.
Oui.
Et ça c'est it's the key vraiment.
Parce que sinon la personne peut vivre ça comme une pression supplémentaire ou comme une comme presque attention, c'est parce que je suis malade qu'on parle de ça. Est-ce que je risque de la perdre ou est-ce que je risque de le perdre? Tu vois ce que je veux dire?
Tu veux dire que... Alors, il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Simon Sinek, je trouve. Il dit, en parlant à une personne qui a vécu quelque chose de très complexe, il lui dit, bah, en fait, j'avais l'impression d'avoir une dette à rendre à mes proches. Pas forcément l'épouse, mais les proches de manière générale, parce que je ne suis pas toute seule, hein. Je suis très, très bien entourée. Et l'idée, c'est de dire, mais moi, je tiens parce que, justement, ils sont là pour moi. Mais à un moment donné, il faut qu'ils me laissent avancer. Donc, il y a une notion de timing, en fait, dans tout ça. C'est qu'on appelle ça le cycle de Prochaska, mais quand on a un deuil, ou là, par exemple, quand tu es viré de ton travail, quand tu as un choc émotionnel dans ta vie, il y a des phases que tu dois passer. Et dans ces phases-là, il y en a une où il faut pouvoir déposer ses émotions. Et aujourd'hui, c'est cette phase-là qui n'existe pas pour les proches aidants.
C'est ce droit à s'exprimer, en fait. C'est comme parce que pendant cette période, c'est comme une abnégation de soi.
En fait, on n'existe plus.
On n'existe plus.
Ouais.
On n'existe plus, mais toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'attention, vous existez encore et il faut le savoir et il faut l'exprimer. C'est ça, si je comprends bien ?
Exactement, exactement. Et le gros problème des proches aidants, tu sais ce que c'est, Yasmine ? C'est qu'ils ne demandent pas de l'aide. Parce qu'ils considèrent que ce n'est pas légitime.
Parce que ce n'est pas eux qui sont malades.
Exactement. Ils se disent, là où elle est, c'est lui, c'est eux qui sont malades. Non, je vais bien. Mais en fait, on est impacté par la relation de la maladie, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on vit au quotidien avec les personnes qui la vivent. Et peut-être qu'ils ne s'expriment pas oralement, mais ils s'expriment, il y a la communication verbale et la communication non-verbale. Et donc, toutes ces émotions-là, c'est des émotions qu'on partage au quotidien.
Parce que le proche aidant, non seulement il aide physiquement la personne à gérer sa maladie, mais il aide aussi moralement. Et donc, j'imagine que face à la personne malade qui a des doutes, le proche aidant aussi en a, mais il n'a pas le droit de laisser... Elle n'a pas le droit, la proche aidante, en l'occurrence, elle n'a pas le droit de laisser transparaître ses doutes et ses peurs aussi.
Alors, tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que finalement, moi, pour avoir accompagné ces personnes dans les soins à domicile, celles qui réussissent le mieux à s'en sortir, c'est celles qui le font en équipe.
Qui le font en équipe.
Et le patient. Ouais. Parce qu'il y en a un qui a besoin de l'autre, et il y a des phases où il y en a un qui n'est pas bien et l'autre qui sera mieux. Et en fait, c'est cette balance-là qui fait qu'on arrive à tenir au long cours. Pareil pour les enfants. Les enfants en oncologie, ils sont incroyables. Ils ont une envie de continuer. Ils n'ont pas dans leur tête que là où elle est le lien avec la mort, il n'est pas là. En fait, ils n'ont pas cette conscience-là. Et donc, ils ont une capacité de résilience qui est incroyable. Incroyable. Donc voilà.
Ouais. Mais comment se donner le droit, en fait, d'exprimer ses peurs en tant que proche aidante alors qu'on a en face de soi une personne malade? Comment attendre de cette personne qu'elle vienne nous soutenir alors qu'elle ne va pas bien?
En fait, ce n'est pas s'attendre qu'elle vienne nous soutenir, mais de voir... Bon, je peux te parler de moi, mais...
Bien sûr, oui, c'est ce que je veux. Moi, je veux ton expérience personnelle.
Ouais. Là, on parle du couple en soi, mais ça peut être la famille. Et de se dire, OK, we're on it all together, on est tous là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que chacun va amener pour qu'on puisse trouver un équilibre ensemble. Je donne un exemple, par exemple, pour nous. On a été accompagnés par une association qui est incroyable. Donc, elles sont thérapeutes, toutes. Mais c'est des femmes qui se sont spécialisées dans l'accompagnement des familles qui ont une maladie. Et en fait, bon, elles ont une approche qu'on appelle systémique. C'est une approche qui prend en compte tous les aspects. les aspects de personnalité de l'un, de l'autre, de ce que la maladie amène, etc. Et en tout cas, si je peux parler de ce que j'ai pu observer, c'est que quand on arrive à différencier ce qui est de la cause de la maladie et ce qui est de la cause du comportement, ben en fait, on arrive à avancer.
Alors justement, quand tu évoques le comportement, c'est que pour avoir vu pas mal surtout des films dans ce sens-là, c'est qu'on voit la personne malade s'effondrer, changer de caractère, devenir plus caractérielle, etc. Donc, qu'est-ce qui est de la maladie et qu'est-ce qui est du changement de caractère?
Alors justement, en fait, quand on est dans des situations comme ça, on va se dire « Non, mais en fait, regarde, il n'a pas à réagir comme ça avec moi. » Mais il faut aussi avoir la connaissance de ce que la maladie apporte. Et j'appelle ça la health literacy. C'est comment est-ce que, et c'est un des points qui ressort des rapports, c'est de dire les proches aidants ont besoin d'être formés pour savoir ce que la maladie peut amener et à quoi ils peuvent s'attendre. Parce qu'il n'y a pas d'école de patients ou de proches aidants.
Okay, exact.
Et ça, c'est un point qui est hyper important et qui ressort beaucoup dans les discussions internationales. C'est de dire il faut pouvoir les outiller avec la connaissance de la pathologie elle-même, la connaissance aussi de eux-mêmes. Toute la partie développement personnel, elle vient avec ça. Et dans toute adversité, on en ressort avec quelque chose de plus gros, de plus grand, et qui nous fait grandir.
Alors, toi, est-ce que
moi,
tu...
Moi, mon mari est exceptionnel parce qu'en fait, il m'a accompagnée aussi dans ce cheminement et qu'on l'a fait ensemble.
Alors justement, toi, par rapport au système de santé, parce qu'on s'est rencontrés aussi dans un événement autour de la santé, est-ce que ton rêve, c'est de voir des formations de l'accompagnement des proches aidants au Maroc?
Alors, ce n'est pas mon rêve. C'est ce que je veux faire.
Okay.
C'est mon rêve en soi, mais en fait, je ne me suis pas dit, c'est un rêve et puis un jour, ça va arriver. J'ai dit, ok, maintenant, il faut faire quelque chose. J'ai vu trop de proches aidants, eux-mêmes tomber malades plus tard, dans les soins à domicile. Ils disent, mais en fait, là, il faut faire quelque chose. Alors, en Suisse, on a déjà commencé, et c'est super. En fait, on a commencé par une ligne téléphonique, où on peut appeler pour avoir plus de questions d'orientation, aussi d'orientation par rapport aux associations qui accompagnent. Au Maroc, il y a un gros, gros réseau d'associations.
Oui.
Le soutien, il est vraiment magnifique. Il y a aussi beaucoup de donateurs qui donnent, parce que le côté financier, ben, il faut pouvoir aider. Donc, mon rêve, et j'espère en faire une réalité, c'est de continuer à accompagner avec... Il s'appelle We for Care, le projet, et il est en cours de développement. Et ça va créer cet espace pour pouvoir amener ces questions-là, qui finalement sont des questions primordiales du système de soins. D'ailleurs, j'ai sollicité GTEX, où on s'est rencontrés, pour leur dire, bah, l'année prochaine, parlons de ça, parlons du partenariat patient. Parlons du fait que pour que les personnes aillent mieux, il faut pouvoir les outiller avec des informations. Il faut pouvoir faire qu'elles fassent partie du système de soins et qu'elles ne soient pas simplement des receveurs du système. On n'est plus dans la relation le médecin, il sait, et le patient, il reçoit l'info. Le patient, avec le temps, il va développer des savoirs expérientiels. C'est un concept qui est exceptionnel, qui a été développé à l'Université de Montréal et qui dit... Concrètement, les savoirs expérientiels, c'est qu'un an, au bout de 10 ans, je peux te parler du diabète mieux que ce que toi, tu as appris dans le livre.
Oui. D'ailleurs, il y a un programme au Maroc du patient partenaire avec l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Et j'ai dit, voilà, absolument. Où finalement, ce sont des anciennes patientes et patients atteints du cancer qui accompagnent, qui sensibilisent, qui aident les personnes aujourd'hui malades à travers un parcours de formation vraiment costaud. Et c'est vrai que j'ai rencontré des personnes formidables dans ce sens-là, qui font un travail... parce que quand on a été touché soi-même, on comprend davantage, comme tu l'as très bien expliqué, on comprend davantage le parcours de la personne. Mais toi, aujourd'hui, tu dépasses le patient pour aller vers l'aidant. Et j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué dans le cas des parents, quand on s'occupe de ses parents, parce que chez nous, il y a vraiment la notion de Rdat al-Walidin.
Oui, exactement. Ouais, alors ça, c'est un point magnifique qui est, bon, aussi, qui est vécu par beaucoup de familles aujourd'hui au Maroc, dans les différentes classes sociales.
Parce que pratiquement, il ne faut pas se plaindre, en fait, de par Rdat al-Walidin.
Alors, c'est un très bon point que tu soulèves, Yasmine. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que je ne me bride pas à dire que c'est difficile pour moi.
Oui.
C'est ça que tu essaies de mettre en avant.
Que...
Et effectivement, tu as raison. Mais par contre, pour pouvoir donner, et c'est la femme marocaine qui est plus qu'exceptionnelle, la femme marocaine, elle donne, elle donne, elle donne. Mais quand c'est au long cours, il y a une notion de temporalité. Il faut que tu puisses te ressourcer pour pouvoir être ce réceptacle émotionnel, ce réceptacle enfin, c'est un réceptacle émotionnel, mais c'est aussi une action. Tu es tout le temps dans l'action. Quand tu as un enfant dans avec une situation d'handicap, tu es tout le temps dans l'action. Et une des propositions qu'on fait ici en Suisse, c'est ce qu'on appelle les répits. Je ne sais pas si tu connais.
Non.
En fait, les répits, c'est des séjours pour les proches aidants où ils vont partir en vacances. Concrètement, c'est ça. C'est partir en vacances pendant qu'on s'occupe concrètement de la personne malade. Donc, il y a des programmes avec des espaces de parole entre proches aidants, avec des voyages d'une semaine, par exemple, dans la montagne pour se ressourcer. Et il y a aussi des répits plus courts où, par exemple, on va avoir de l'aide d'une association qui va venir pour s'occuper de la personne dont on s'occupe. Et nous, on va pouvoir aller au cinéma, pardon, ou faire autre chose.
Ouais.
Donc, il y a différents types de répits. Il y a le répit en court terme et le répit sous forme de vacances.
Ouais. Et ça, c'est des associations qui s'en occupent.
Oui, mais pas seulement. Et je lance un appel, un vrai appel aujourd'hui, aux institutions et au gouvernement de dire, mais finalement, c'est de l'aide aujourd'hui qui est invisible et qui ne coûte pas au système, mais si elle n'existait pas, elle coûterait beaucoup plus aussi.
Au système, absolument, absolument.
Et si on ne les prend pas en compte et qu'on les soigne eux-mêmes, parce qu'on est vraiment dans le care, et ben on va se retrouver avec des coûts de la santé qui explosent. Mmh. Parce que si on ne peut plus garder la personne à la maison, la voisine, la femme, en tout cas la femme travaille de plus en plus, donc elle n'est plus à la maison, elle ne peut plus s'occuper. Il faut trouver des moyens, il faut pouvoir développer les soins à domicile aussi.
Mmh. Absolument, absolument.
D'une manière indirecte. Et si on tacle le problème déjà aujourd'hui, on va réussir à avoir des résultats beaucoup plus efficients.
Mmh.
Parce qu'on va le construire et le co-construire avec eux. Avec les patients, avec les proches aidants et avec les professionnels du soin.
Eh bien, Rita Benzakour, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi, Yasmine.
Merci à toi.
Je suis désolée pour le côté émotionnel.
Non, mais c'est normal. Écoute, c'est un rendez-vous. C'est une conversation qui est vraie. On ne peut pas enlever ce qui est vrai, en fait, ce qui est honnête et entier.
Merci à toi et merci pour tout ce que tu fais pour les femmes d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Rita. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.